Entre tant de romans autobiographiques, journaux intimes, souvenirs, confessions qui connaissent depuis quelques années une vogue si extraordinaire, comme si, de l'œuvre littéraire, on négligeait ce qui est création pour ne plus l'envisager que sous l'angle de l'expression et regarder, plutôt que l'objet fabriqué, l'homme qui se cache ou se montre derrière, l'âge d'homme vient donc se proposer, sans que son auteur veuille se prévaloir d'autre chose que d'avoir tenté de parler de lui-même avec le maximum de lucidité et de sincérité. Un problème le tourmentait qui lui donnait mauvaise conscience et l'empêchait d'écrire. Ce qui se passe dans le domaine de l'écriture n'est-il pas dénué de valeur si cela reste esthétique, anodin, dépourvu de sanctions, s'il n'y a rien dans le fait d'écrire une œuvre qui soit un équivalent, et ici intervient l'une des images les plus chères à l'auteur, de ce qu'est, pour le torero, la corne acérée du taureau qui seul, en raison de la menace matérielle qu'elle recèle, confère une réalité humaine à son art, l'empêche d'être autre chose que grâce vaine de ballerine. Mettre à nu certaines obsessions d'ordre sentimental ou sexuel, confesser publiquement certaines des déficiences ou des lâchetés qui lui font le plus honte, tel fut pour l'auteur le moyen, grossier sans doute, mais qu'il livre à d'autres en espérant le voir amendé, d'introduire ne fût-ce que l'ombre d'une corne de taureau dans une œuvre littéraire.
Et si on lit l'article avec tant soit peu d'attention, on voit que je formule le souhait, le vœu, enfin, qu'il y ait en littérature quelque chose qui soit un tout petit peu l'équivalent de ce qu'est la corne du taureau pour le matador. Mais c'est rigoureusement tout. Et qu'il y ait un risque sérieux. Je ne dirais pas qu'on y risque nécessairement sa peau, bien sûr. Mais il y a tout de même des exemples, enfin, justement, parmi les poètes dont j'ai parlé, des gens comme Nerval d'une part, comme Artaud d'autre part, sont devenus fous. Devenir fou, c'est tout de même, c'est peut-être pas un risque héroïque, enfin, comme celui de se faire tuer dans d'horribles tortures, ou même de se faire tuer tout simplement, mais c'est pas drôle quand même.
Quand j'ai lu un de ses tout premiers livres qui a été publié juste avant la guerre, qui est L'âge d'homme.
Louis-René Desforêts.
Je ne savais absolument rien à l'époque de Michel Léris, et c'est un livre qui m'avait beaucoup impressionné. Dont je dirais qu'il a vraiment, en effet, exercé une influence sur ce que j'ai pu écrire par la suite. Je veux dire plutôt sur le bavard que sur les mendiants, qui est mon premier livre. Je dirais plutôt que c'est le langage même de Léris qui m'a fait impression, au point même que dans le bavard, il se trouve deux ou trois citations de Léris qui sont d'ailleurs passées, pour ainsi dire, inaperçues. Il faut dire que ce sont des citations extrêmement courtes, mais il y en a. Elles ne sont pas, ce n'est pas entre guillemets, ça ne peut pas être entre guillemets dans la mesure où, comment dirais-je, je pense, j'ai souvent pensé, à tort ou à raison, que non seulement les mots appartiennent à tout le monde, mais même parfois des membres de phrases. Voilà. De sorte que dans le bavard, il y a tout un jeu comme ça de citations qui sont quand même, comment dirais-je, reproduites de telle sorte et déformées, si vous voulez, et plutôt adaptées à mon propos propre, que bon, qu'elle passe naturellement inaperçue.
Quand vous avez lu L'âge d'homme, vous étiez tout jeune, c'était une découverte, comme vous avez dit. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette littérature?
D'une part, en tout cas, c'est certainement la rigueur même. Le projet aussi, bien sûr, le projet autobiographique, qui était quand même très, très nouveau par rapport à ce qu'on avait pu lire auparavant, mais je crois que c'est surtout la rigueur, et je dirais même une certaine raideur dans la forme qui me plaisait. Mais ce que je peux dire à ce sujet, justement, c'est que la première fois que j'ai lu un extrait de L'âge d'homme, c'était dans une revue très belle, très luxueuse, qui s'appelait Mesure, je ne sais pas si vous connaissez au moins le nom de cette revue. Et ce qui est assez étrange, c'est que j'ai retrouvé depuis peu, j'ai retrouvé ce numéro. Il se trouve qu'il y a donc un texte, un extrait de L'âge d'homme qui n'avait pas encore paru. Et il y a également un texte magnifique de Kleist. Or, ce texte de Claes, qui s'appelle « De l'élaboration de la pensée par le discours », qui avait été traduit par Jacques Decour, d'ailleurs, qui est un texte magnifique, est un texte qui est vraiment à la source du Bavard. C'est de là que je suis parti pour écrire ce livre. De sorte que, si vous voulez, il y a donc dans cette même revue, dans ce même numéro de revue, il y a deux textes qui ont été pour moi capitaux. C'est passé assez inaperçu sur le moment. Et au fond, si l'âge d'homme a été, enfin, redécouvert, c'est beaucoup dire, mais enfin, c'est quelques années après, et par Sartre lui-même. C'est Sartre qui en avait parlé, de telle sorte que ça a été lu davantage par la suite, je crois.
Dans ma mémoire, gise, comme des objets hétéroclites, à encre, chaîne, chemise, crayon, papier, dans la boutique d'un ship chandler où les navigateurs viennent se réapprovisionner, un certain nombre d'événements dont beaucoup peuvent être regardés comme ridicules ou ignobles. Mais la bassesse même qui se trouve attachée à presque tous ces événements et la peur, la répugnance extrême que j'éprouve à les évoquer, ont pour résultat, même quand ils n'ont pas pour héroïne une femme immédiatement terrifiante, de faire de celles qui ont été mêlées des Judiths. Ainsi, je vois plusieurs Judiths de chair et d'os, mais approximatives, se dresser. La petite fille, coiffée avec une raie au milieu, des macarons noirs, et l'air bien sage, malgré sa mine costaude et son regard malicieux, avec qui j'étais à l'école et qui, ainsi que s'amuse à le faire beaucoup d'enfants, s'étant frotté longuement un poignet avec la paume de l'autre main, me faisait respirer la peau ainsi frottée en me disant « ça sent la mort ». Une veuve très blonde, oxygénée et très fardée, tout en voile noir et blanc, bas de soie, gros bouquet de violettes, en face de qui, étant sorti avec ma mère, je me trouvais assis dans un tramway et dont je regardais les yeux fatigués, la bouche rouge et les jambes, afin de me les remémorer lors de la fête nocturne égoïste. Les créatures réelles ou fausses pour qui je pleurais dans mon lit, remâchant amèrement ma solitude, mon désespoir de trouver jamais une femme adéquate à mon amour, attisant ces réflexions cuisantes comme à plaisir, jusqu'à déchaîner mes sanglots qui arrivaient par grands hoquets et dans lesquels je me plongeais comme dans une marée de caresses. Les actrices éminemment inaccessibles, telles Sarah Bernhardt, qui fut pendant un certain temps l'un des thèmes favoris de mes délectations moroses. La fille de bar dont je fus amoureux à 15 ans, parce qu'elle était lesbienne et qu'elle avait une voix éraillée et que je l'avais entendue geindre durant une rage de dents. Vague roulure qui purement et simplement m'entola, ne couchant même pas avec moi et s'enfuyant avec l'argent que comme un jobard je lui avais donné, ce qui inimaginablement m'humilia. Fille aussi avec laquelle mon père m'avait un jour surpris, ce dont j'avais été honteux, au-delà de toute expression. La fille soumise, qui après 1000 propos orduriers, récits intimes et agaceries, nous fit voir sur son mollet la trace violette d'un coup de couteau, femme avec qui je ne montais pas, mais à qui je pense très souvent quand je lis dans les faits divers des comptes rendus de Rix ou des histoires de femmes coupées en morceaux. Celles enfin, qui ne font rien, à qui je n'ose même pas parler lorsque je les rencontre, mais qui me fauchent la gorge avec leurs seuls yeux de méduse. Celle, client d'un autre bar, qui me mordit les lèvres jusqu'au sang et me lança son pied en pleine figure un jour qu'elle était ivre pour faire admirer sa souplesse. Celle, en combinaison de dentelle et bas de soie noire avec laquelle, étant vierge, je me trouvais couché une nuit de bombe crapuleuse, mais que je ne pus pas toucher parce que je me mis à dégurgiter sur les draps une nappe de vin rouge.
Après avoir lu L'âge d'homme, vous avez peut-être été tenté de rencontrer Michel Léris. Dans quelles circonstances cela s'est-il passé ?
Bien, la première fois que je l'ai rencontré, si je ne me trompe, ça doit être en 1943, à l'ANRF, enfin, dans la maison d'édition Gallimard. Et puis, bon, je l'ai juste rencontré. Je me souviens que c'était d'ailleurs dans le bureau de Camus que je l'ai vu. Et je l'ai revu par la suite, mais de façon très très intermittente. et plutôt comme ça au cours de repas entre amis. Et c'est beaucoup plus tard que nous sommes vraiment fréquentés, alors de façon très, très assidue, fin 60, enfin les années 60, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, nous nous voyons très très fréquemment, c'est-à-dire que nous déjeunions tous les 15 jours au restaurant de façon très ponctuelle, comme ça, pendant tout le cours de l'année, enfin en tout cas le cours de l'année où nous étions tous les deux à Paris.
On dit que de ce côté-là, il avait, enfin comme dans beaucoup d'autres activités, il avait des habitudes extrêmement rigoureuses.
Bien, je me souviens qu'au début, c'était toujours au restaurant Calvet, vous savez, qui se trouve au boulevard Saint-Germain, où nous allions. Puis il y avait toujours un moment chez Léris où il se dégoûtait d'un restaurant, pour une raison, pour des motifs souvent curieux, étranges. Par exemple, ensuite, nous allions dans un restaurant dont le nom m'échappe maintenant, et qui est assez beau, parce qu'il a tout un décor, Vagenande, oui, ça, qui est tout un décor 1900. Et c'est moi un peu qui lui avais suggéré cet endroit pour changer de lieu, et ça lui avait tout à fait plu jusqu'au moment où il a aperçu dans un coin un ancien phonographe, vous savez, avec pavillon, et il a trouvé que tout ça, ça faisait de la frime et qu'il ne voulait plus y aller. Alors en effet, on a cessé d'aller là, et par la suite, c'était dans un restaurant irlandais ou soi-disant tel, alors qu'il était tout auprès de chez moi, et là où nous avons été, alors au contraire, très souvent et pendant assez longtemps.
Et au cours de ces repas, vous parliez de beaucoup de choses, j'imagine.
En réalité, on parlait de tout et de rien, c'est-à-dire c'était un mélange de propos anecdotiques, mais aussi quelquefois des propos plus sérieux, notamment sur la musique, parce que vous savez qu'il aimait beaucoup la musique, enfin il aimait en particulier l'opéra, et là-dessus on avait de très longues conversations, souvent d'ailleurs qui tournaient à la polémique, parce que mes goûts n'étaient pas tout à fait conformes aux siens. En ce sens que d'abord, ce qui est assez étrange d'ailleurs, il n'aimait vraiment que les ouvrages lyriques, c'est-à-dire enfin l'opéra. Le reste l'intéressant nettement moins, ce qui n'est pas du tout mon cas précisément. Et par exemple, enfin pour donner des exemples précis comme ça, enfin pas précis, mais je dirais plutôt généraux, il n'aimait pas beaucoup la musique symphonique, et, dont il disait que c'était de, comment dit-on, enfin, la musique d'ameublement, enfin je ne sais pas comment appeler ça autrement. Et alors même, encore moins je crois, la musique de chambre, dont il n'a jamais été d'ailleurs question entre nous. C'était essentiellement l'opéra. Mais alors là-dessus, il était imbattable, notamment sur les opéras de Verdi, puisque Verdi le plaçait plus haut que tout. Il était capable de se souvenir de tous les noms des interprètes qu'il avait pu entendre tout au cours de sa vie, dans différentes villes européennes, comme ça. Il pouvait dire aussitôt quels étaient les chanteurs qui interprétaient tel rôle. Ce qui m'a paru toujours extraordinaire, parce que moi, je n'ai pas du tout la mémoire de cela. Mais alors, il m'a dit un jour qu'il avait conservé tous les programmes de ces opéras auxquels il avait assisté. C'était une véritable collection. Et que de temps en temps, il les feuilletait pour essayer de se remémorer, en quelque sorte surtout de revivre ses auditions. Quand il parlait de l'opéra, il s'attardait beaucoup sur l'argument des livrets, notamment par exemple des livrets de Verdi, qui sont pourtant bien loin d'être toujours limpides, et même souvent tellement enchevêtrés qu'on en perd le fil. Mais lui, il ne perdait pas du tout. Il était tout à fait capable de vous raconter d'un bout à l'autre un opéra de Verdi, ce que je trouve assez, assez prodigieux. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il s'intéressait éminemment à l'action même. Pour lui, c'est très important, l'action, dans un opéra. Pour ainsi dire, autant, enfin c'est exagéré de dire ça, mais presque autant que le texte musical. Curieusement aussi, il soutenait quelque chose qui pour moi est quand même assez insoutenable. Il disait que la pièce de Maeterlinck, Péléas et Mélisande, était plus belle que l'opéra. Ce qui était un peu paradoxal. Mais il aimait beaucoup le paradoxe. Pour ce qui est de Verdi, qui plaçait plus haut qu'aucun autre, je veux dire que cette admiration pour Verdi me paraissait parfois excessive, en ceci qu'elle excluait d'autres musiciens d'une grandeur supérieure ou au moins égale à la sienne, comme par exemple, pour s'en tenir à l'opéra du XIXe siècle, Wagner, qui était sa bête noire. C'était sa bête noire, il l'assimilait un peu à Claudel, qui dans le domaine littéraire était également l'objet de sa détestation. Et alors, nous avons eu des discussions extrêmement vives. Mais je crois cependant que c'était moins l'œuvre proprement musicale de Wagner que son idéologie, l'idéologie de Wagner, qu'il estimait à juste titre d'ailleurs suspecte. Et alors, souvent, au cours de ces discussions, je dirais polémiques, sur ce sujet, il finissait par en convenir, tout en persistant dans son jugement négatif. Allant même jusqu'à me reprocher d'être wagnérien. Ce qui me mettait hors de moi parce que, selon moi, c'est absolument dépourvu de sens. Car enfin, Wagner, c'est avant tout de la musique. Et je crois, en son siècle, une des plus belles qui soit, d'où procède même presque toute la musique dite moderne, que ce soit Mahler, Schoenberg, Berg. Et d'ailleurs, Léris me disait aussi qu'il était entré maintes fois en conflit avec son beau-frère Canveller, qui lui alors était un fervent wagnérien, un véritable fanatique. Et alors il disait, mais c'est parce que c'est un bourgeois allemand qu'il aime Wagner, ce qui me paraissait excessif.
Il raconte, il parle de son goût pour l'opéra comme... d'une expérience de jeunesse, presque d'enfance, puisque ses parents avaient en permanence une place, une loge à l'opéra. Donc il a fait, enfin la musique fait vraiment partie de l'ensemble des souvenirs et de tout ce monde, disons, de l'enfance qu'il a nourri.
Pour ce qui est du milieu familial, en effet, il vivait dans un milieu qui s'intéressait beaucoup à l'opéra. Il avait même une tante, je crois, ou une cousine, qui était cantatrice. Je crois que c'est d'ailleurs un peu ça qui a fait que ses parents l'emmenaient à l'opéra pour entendre précisément cette cousine, cette tante. Mais ses goûts étaient d'ailleurs, je dirais, ses répulsions, qui n'étaient absolument pas les miennes, étaient souvent singulières. Par exemple, il faisait très peu de cas de la musique de Ravel. Il avait connu Ravel par un de ses cousins qui était Roland Manuel, lequel était un disciple d'ailleurs de Ravel. Le personnage l'avait beaucoup séduit par son élégance, la finesse de son esprit et surtout l'extrême courtoisie de ses manières. Mais l'œuvre musicale, il la rejetait avec dédain en lui opposant celle de Eric Satie.
France Culture, pour Michel Léris, Signe de vie.
Le chant qui s'échappe de la bouche après avoir franchi la barrière blanche des dents, s'il prend naissance dans la gorge et suit le même chemin que la parole, diffère pourtant de cette dernière, non seulement à cause de sa nature mélodieuse, mais parce qu'il nous apparaît comme venant de beaucoup plus loin. C'est du creux même de la poitrine, et souvent du fin fond des entrailles qu'il semble monter, en effet, chargé de vibrations qui ne sont que les exhalaisons dont il s'est imprégné durant sa période de latence dans ce monde souterrain. Que ce soit la voix d'un chanteur arabe, ou mieux encore andalou, qui semble se frayer un passage à travers les organes, en se forant le canal d'une plaie étroite, mais assez pénétrante pour qu'en soient intéressés les muscles les plus profonds. Que ce soit celle d'un artiste d'opéra, découpé en plein roc, ou façonné dans l'acier le plus souple, s'il s'agit d'un chanteur, surgit de la terre tiède d'une serre, ou étiré en filament cassant de verre, s'il s'agit d'une de ces créatures qu'on appelle cantatrices, plus volontiers que chanteuses, bien que le cantateur soit une espèce inconnue. Que ce soit la voix la plus vulgaire, issue de l'être le plus quelconque, pour la romance la plus fade ou le refrain le plus trivial, mystérieuse est la voix qui chante par rapport à la voix qui parle.
Yeah.